Henri Francis.
Midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Allemagne, deuxième jour du G20 Afrique, la conférence Compact d'Africa à Berlin, qui sert de prélude au prochain sommet du G20 à Hambourg. La chancelière allemande, Angela Merkel, y a appelé hier à investir en Afrique pour limiter l'immigration clandestine vers l'Europe. Le point avec Morgane Guiriec.
S'il y a trop de désespoir en Afrique, alors évidemment, des jeunes vont se dire qu'ils vont aller chercher une nouvelle vie ailleurs, a déclaré Angela Merkel, présidente du G20. L'initiative Compact with Africa prône un partenariat pour stimuler l'investissement privé sur le continent. Pour le Guinéen Alpha Condé, le président en exercice de l'Union africaine, c'est l'opportunité de mieux identifier les mesures adéquates, surmonter les obstacles à une croissance économique durable et de créer des flux d'investissement plus importants et plus stables. L'Allemagne a annoncé 300 millions d'euros d'appui pour rendre les pays africains plus attrayants à l'investissement plutôt qu'un plan d'aide. Le président rwandais Paul Kagame a estimé que l'aide traditionnelle ne suffirait jamais pour un développement durable et que le secteur privé était absolument essentiel. Mamadou Issoufou, président du Niger, ajoute que l'Afrique a besoin de l'Europe qui a à son tour besoin de l'Afrique. Il est donc normal que les deux continents investissent dans un avenir commun.
Au Soudan du Sud, le conflit en cours avec ses déplacements massifs de population fait régulièrement émerger sur la carte des noms synonymes de grande détresse, comme à Burok, un village du nord-est où les travailleurs humanitaires font face au dénuement le plus complet. En l'espace de quelques jours, ce village, dans une région reculée de l'état du Haut-Nil, situé tout près de la frontière avec le Soudan, a vu arriver au bas mot 30 000 hommes, femmes et enfants, fuyant une offensive de l'armée gouvernementale, la SPLA. RDC, retour sur l'évasion en masse de la prison de Beni dans l'est du pays. Presque tous les 967 détenus se sont échappés de la prison de Kangbayi attaquée dimanche après-midi. Un incident qui crée la panique au sein de la population de la ville. Solange Niamoulissa a joint Nikes Kibel Beloka, directeur du journal Les Colisses à Beni.
Dimanche à 15h, la prison de Beni, qui est un peu à l'écart de la ville, a été attaquée par un groupe de bandits lourdement armés. Ils ont réussi à faire sortir 930 personnes sur les 967 qui étaient locataires. Il y a eu 11 morts, dont 8 militaires, un gardien et puis 2 prisonniers. Cette histoire donne la chair de poule à la population.
Est-ce qu'il y a des soupçons sur les gens qui ont pu mener cette attaque?
Officiellement, on n'identifie pas les assaillants, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une coalition des islamistes ADEF plus les Maïmaï. Il y avait autant d'ADEF gardés en prison qui étaient en instance de jugement. Et il y a des Maïmaï aussi, donc ils sont venus pour libérer les leurs et ils l'ont fait, ils sont repartis.
Quel sera l'effet sur tout justement l'insécurité au Nord Kivu, précisément à Beni?
C'est un problème réel parce que on est dans la calmie pendant presque 7 ou 8 mois, depuis qu'il y a les procès, depuis qu'il y a les opérations militaires Sokola 1. Aujourd'hui, le vrai problème va se poser parce que les cultivateurs ne sauront pas aller au champ. Et puis tous les axes routiers, notamment Beni Kassindi pour vers la frontière, Beni Butembo, Beni Lubero, risquent d'être des axes de mort parce que ces gens sont dans la nature et à tout moment, ils auront besoin de manger, ils pourront attaquer des véhicules, ils pourront attaquer les hommes. Donc, c'est un problème sérieux qui va se poser dans la région.
Est-ce que Beni a une prison qui peut abriter plus de 900 personnes?
Non, la prison a été construite en 2005-2006. Avec l'appui des Belges, c'était pour 250 personnes. Mais vous comprenez que les prisons en RDC ne respectent pas leur première capacité d'accueil. Aujourd'hui, ça a été 4-5 fois le nombre prévu pour cette prison, dont les conditions n'étaient pas les meilleures. C'était, je peux me permettre, c'était un mouroir. Bon, dès que l'occasion s'est présentée, ils sont tous partis.
Après cette évasion, quelle est la réaction du gouvernement?
À partir de Goma, le gouverneur de province a tenu une réunion de sécurité. Il a décrété le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire de Beni et de la ville de Butembo de 18h30 à 6h du matin pour permettre aux forces de défense et de sécurité de poursuivre l'ennemi et de récupérer les fouillards. Bon, jusque-là, ça n'a pas encore donné d'effet. Bon, il y a à peine 6 à 8 qui sont retournés en prison, mais pour le reste, peut-être dans les jours qui suivent, l'armée pourra mettre la main sur le fouillard, mais c'est pas facile parce que c'est une région où il y a des montagnes, il y a le parc national de Virunga, et le chef même des islamistes ADEF. Dans l'entretemps, le maire de la ville demande aux prisonniers de retourner. Il demande aussi à la population de signaler tout cas suspect. C'est une grande panique dans la ville parce que la crainte est grande que ces gens reprennent encore des massacres. Et aussi, vous voyez que le procès est même amputé parce que ce sont les gens qui comparaissaient qui sont partis.
Nikes Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Béni, en RDC.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, la haute cour de justice devant laquelle comparaissent les anciens ministres de l'ex-président Blaise Compaoré, déboutée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil a jugé que la haute cour viole le principe d'égalité devant la justice et qu'elle est aussi contraire à la Constitution nationale parce qu'elle ne prévoit pas de recours. Une décision qui va dans le sens souhaité par les avocats de ces anciens ministres, jugés pour leur rôle dans la répression au temps du régime Compaoré. Écoutez les explications de Maître Mamadou Traoré, ancien bâtonnier et avocat de l'ex-ministre Alain Traoré.
De quoi s'agit-il? Du procès équitable. Or, précisément, les dispositions fondatrices de la Haute Cour de justice au Burkina Faso sont contraires à ce que l'accusé puisse faire appel à la décision de condamnation. En cela, les justiciables de la Haute Cour, les anciens ministres, ont eu raison. La juridiction devant laquelle ils comparaissent ne respecte pas la Constitution du Burkina. Il ne respecte pas les standards internationaux. Il peut pas avoir procès dans ces conditions. Maintenant, que va faire le gouvernement face à cela? Nous attendons de voir. D'une part, le Conseil constitutionnel dit que cette haute cour, la loi en tout cas qui organise son fonctionnement, contient des dispositions inconstitutionnelles. D'autre part, la réforme de la Constitution envisage de supprimer la Haute Cour de justice. Moi, je crois qu'en bonne politique judiciaire et législative, il faut mettre une croix sur la Haute Cour de justice et voir comment, par les mécanismes du droit commun, on peut trouver une solution à toutes ces questions, à toutes ces préoccupations.
Maître Mamadou Traoré, ancien bâtonnier et avocat de l'ex-ministre Alain Traoré au Burkina Faso. Au Maroc, la contestation populaire continue dans le nord du pays. Une délégation gouvernementale s'est rendue lundi à Al-Hoceima, épicentre de ce mouvement de protestation qui secoue depuis plusieurs mois la région du Rif. Yacouba Ouédraogo.
La délégation ministérielle a tenu avec des responsables de la région une réunion de travail consacrée à la problématique de l'eau. Il a aussi été question de la construction d'un barrage et d'une usine de dessalement. C'est la seconde visite de ce genre en moins d'un mois vers la ville frondeuse. Pour répondre aux revendications exprimées dans la rue, l'État a relancé ou accéléré plusieurs projets pour relancer l'économie locale. Face à la révolte populaire dans la région du Rif, Rabat mène une politique de la carotte et du bâton. Depuis le 26 mai, la police a procédé à plus d'une centaine d'arrestations, dont Nasser Zefzafi, leader de la contestation. 86 personnes ont été présentées à la justice. Près de 30 manifestants ont été emprisonnés et accusés d'atteinte à la sécurité intérieure. Depuis, la ville d'Al-Hoceima et la localité voisine d'Imzouren sont en effervescence avec des manifestations quotidiennes pour exiger la libération de tous les prisonniers.
Et pour terminer ici à Washington, déposition aujourd'hui du ministre américain de la Justice Jeff Sessions devant la commission du renseignement du Sénat. Il va répondre à la question des sénateurs sur ses rencontres avec l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Claire Morin-Gibault.
L'audition publique aura lieu à partir de 18h30 temps universel devant la commission du renseignement qui mène ses propres enquêtes sur d'éventuelles ingérences russes dans la campagne présidentielle. Jeff Sessions n'avait pas dit, lors de son audition de confirmation au Sénat en janvier, qu'il avait rencontré deux fois en 2016 Sergueï Kislyak, ambassadeur russe à Washington. Après la révélation de ses rencontres en mars, Jeff Sessions s'était récusé de l'enquête sur l'interférence russe menée par le FBI, qui est sous son autorité. Jeff Sessions a signé en mai une lettre recommandant au président Trump de limoger James Comey, à l'époque patron de la police fédérale. Monsieur Comey est déjà passé devant la même commission sénatoriale et Jeff Sessions, ancien sénateur républicain de l'Alabama, ne pourra pas compter sur la bienveillance de ses anciens collègues.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.